rafraîchit, hein, la pluie du ciel qui vient nous rafraîchir. Puis le titre de la prédication de Stéphane qui est l'eau. Alors, l'eau, rafraîchissement, voilà. Et puis moi, hier, j'étais à la piscine, donc il y a de l'eau aussi. Mais à la piscine, j'ai vécu quelque chose de particulier. Ce n'était pas transcendant, mais j'ai été rafraîchi, pas simplement parce que je suis allé dans l'eau, mais parce que dans la cabine où je me suis changé pour mettre un maillot de bain, j'ai trouvé un petit passage de calendrier par terre. Puis j'ai dit à Monica, tiens, donne-moi ça, tiens. Le Seigneur m'a déjà parlé personnellement comme ça, avec un petit feuillet de calendrier qui traînait là, il n'aurait pas dû être. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais le garder, ce petit, ça, puis on ne sait jamais si le Seigneur veut me parler. Et là, j'ai choisi donc de vous lire ce qu'il y a sur ce verset de calendrier biblique, sous la date du 16 juillet, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, le titre, c'est « Besoin de la pluie ». Le titre « Besoin de la pluie ». Tu vas nous parler de l'eau. On a vu ce chant tout à l'heure qui parlait de rafraîchissement avec la pluie du ciel. Et le texte correspondant, c'est Hébreux 6, verset 7. Alors, je ne veux pas manger sur ta prédication, hein, t'inquiète pas.
Je vais être court, tu peux manger.
Un petit peu. Ça va bien se passer. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, Hébreux 6, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc ce matin, je crois que le Seigneur nous appelle à accepter d'être arrosés par sa pluie. C'est ce qu'il nous demande, c'est aussi notre vocation. Et il est écrit que la parole de Dieu est comme la pluie, elle vient du ciel, elle arrose, elle féconde, elle fait germer les plantes. Nous avons besoin de recevoir une parole qui vient du ciel de façon à pouvoir produire du fruit. Voilà ce que finalement j'ai choisi de vous lire, parce que je pense que cette circonstance, donc c'est pour attirer notre attention sur le fait que le Seigneur veut avoir parmi nous une action particulière, parmi nous ce matin, qui est celle de nous rafraîchir par sa parole, qui est la pluie qui vient du ciel et qui nous permet de produire du fruit. Voilà. Je vais prier pour toi. Hébreux 6, verset 7.
C'était
16 juillet, oui. Jeudi.
C'était bas.
D'accord. On
y va.
Pensez pour Esteban. Merci. Seigneur, je veux te prier pour
Esteban. C'est le même nom. C'est la même chose.
Et pour Stéphane, Seigneur, et je te prie de le bénir. Au-delà de ce qu'il nous apporte, je te prie de le bénir pour lui. Je te prie de le bénir pour sa famille. Je te prie de bénir tout ce qui touche. Je te prie de bénir sa profession. Je te prie de bénir son ministère. Je te prie de bénir tout ce qu'il fait. Que ta bénédiction soit sur lui ce matin, Seigneur. Et pour nous, Seigneur, je te prie de nous aider à ouvrir nos oreilles afin d'entendre ce que tu veux nous dire. Amen.
Amen.
Je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro, vous m'entendez bien là? Là aussi, parce que je bouge un peu. C'est très bon ce qui s'est passé ce matin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait? On a bu de l'eau, on est venu à la croix. Les chants nous rappelaient beaucoup l'eau, les torrents, la pluie, un ruisseau même, je ne sais plus exactement. Hein, quand tu as préparé tes chants, il y a beaucoup sur ce thème-là. Et c'est vrai, ça m'a un petit peu rassuré, parce que mon thème, c'est un petit peu là-dessus. Mais c'est pas... voilà. Donc, voilà, le Seigneur veut nous baigner, nous encourager vraiment à venir dans sa présence pour boire... l'eau qui nous donne la vie, l'eau qui nous sanctifie, l'eau qui nous purifie, l'eau qui nous fait du bien, qui nous apaise, qui nous rafraîchit. Enfin, l'eau fait énormément de choses. Et je crois vraiment, le Seigneur veut vraiment mettre un accent particulier sur ça ce matin. Je suis arrivé ici très, très tendu, peut-être aussi parce que je dois annoncer la parole, c'est toujours un peu de stress. Mais aussi parce que j'ai beaucoup de préparatifs pour partir en vacances, la fatigue du travail, on s'arrête, enfin... pas mal tendu, puis là, le Seigneur m'a visité, restauré, guéri, etc. Simplement parce qu'on vient dans sa présence. Notre Dieu est vraiment puissant et il ne nous abandonnera jamais. Jamais nous abandonnera. Amen. Et il est vrai que ce que tu as dit, c'est qu'on doit marcher par la foi. qu'on ne doit pas s'appuyer sur ses sentiments, que même si Dieu ne sent pas la présence de Dieu, tu sais que tu as la parole, et la parole t'assure que Dieu est présent, et cela est suffisant. Mais aussi, c'est absolument juste, parce qu'on doit marcher vraiment par la foi, mais aussi Dieu nous fait grâce. Parce qu'il sait comment nous sommes faits, et il manifeste sa présence tangible dans nos cœurs. Et nous en avons besoin. Nous avons besoin, petit être fragile. Je dis petit être fragile, puisqu'en fait, vous êtes tous des brebis. Des brebis, c'est pas bien costaud. Hein. On est d'accord avec ça? J'aurais aimé qu'on lise déjà dans Jean 19, le verset 28. Je crois que c'est Paul qui a dit là, je suis venu avec un message parmi vous, c'est la croix de Jésus, je veux seulement savoir une chose parmi vous, c'est la croix et la croix de Jésus, Jésus et Jésus crucifié. C'est ça que voulait prêcher Paul aux Corinthiens. Nous ne sommes pas des Corinthiens, mais nous sommes des chrétiens ici de la région. Et la parole est éternelle, elle dit la même chose aujourd'hui. Une seule chose parmi vous, c'est la croix. La prédication de la parole, c'est la croix. Là, on peut résumer peut-être même toute la Bible à ceci, c'est Jésus crucifié. Et au verset 28, alors, Jésus était sur la croix. Verset 28, il dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Amen. J'ai soif. Vous avez ça dans votre Bible? Ça que formidable, c'est qu'en fait, une des dernières paroles de Jésus, c'est qu'il a dit « J'ai soif ». Mais il a eu soif pour nous. Il a eu soif vraiment pour nous. Il a eu au bout des souffrances, même de la souffrance de la soif. Et il l'a prononcé afin que l'Écriture fût accomplie. Jésus a accompli la parole de Dieu dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Il a prouvé ainsi qu'il était lui-même la parole de Dieu. Je suis la parole. Au commencement était la parole. Et il a accompli cette parole, mais pas seulement dans sa façon de vivre, mais aussi dans le déroulement de ce qui s'est passé. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il va dans le détail, par exemple, là, il dit « J'ai soif ». Et dans le psaume 69, c'est marqué « J'ai soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». C'est ce qui s'est passé. Il y a une multitude de détails où Jésus a accompli la croix. Je me rappelle aussi un autre détail, c'est qu'à un moment donné, Jésus, c'est avant Gethsémané, il sait qu'il va être arrêté. Et il dit à ses disciples, « Mais je vous ai dit autrefois, n'allez sans bâton ni sac, allez prêcher l'évangile et prenez même pas de chemise, pas une bourse, rien du tout. Mais maintenant, je vous dis, prenez une épée. Seigneur, nous avons deux épées. Eh bien, cela suffit. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait participer ses disciples à l'accomplissement de la parole, parce qu'il est écrit quelque part, je serai compté parmi les malfaiteurs. Sur la croix, Jésus est mort comme un malfaiteur. Il était traité comme un brigand. Amen. Et donc, il a même associé ses disciples à cette parole en disant, mais prenez des épées. On sera pris pour une bande de malfaiteurs, puisque la parole dit que nous sommes une bande de malfaiteurs, que je suis le malfaiteur. Donc ils ont pris des épées, et ce n'était pas du tout le style, le style de Jésus et ses disciples, là, l'épée. Pas du tout, c'était plutôt la douceur et puis la compassion. Mais ils ont quand même pris des épées pour accomplir la parole. Après, on voit qu'un des disciples a coupé l'oreille de Malchus, un serviteur, et que Jésus, tout de suite après, il lui a touché l'oreille et l'a guéri. C'était juste pour marquer le signe, cette épée. Amen. Donc Jésus est allé dans les moindres détails, il a accompli la parole, puis il accomplissait la parole, puis savait que son heure avançait, et aussi puis savait qu'il était vraiment, quelle était sa mission sur la terre, qu'il était vraiment Dieu. Ça, puis il avançait dans la parole, lui, il savait qui il était vraiment. Ainsi, nous aussi, plus nous avançons dans la parole, plus nous savons qui nous sommes vraiment. Comme lui-même a montré le chemin, Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus a dit « J'ai soif ». Il eut vraiment soif et il était abreuvé de vinaigre. Ce matin, nous avions soif Et on n'a pas été abreuvé de vinaigre, n'est-ce pas? On était abreuvé de la paix du Seigneur. On était baigné de sa restauration. On était béni de sa consolation. On était béni de sa présence. On a eu soif, mais on a bu la très très bonne eau. Amen. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens au chapitre 5, au verset 25. Éphésiens chapitre 5, au verset 25. Alors, il y a deux injonctions, une pour les femmes qui doivent être soumises à leur mari et une autre injonction pour les maris qui doivent aimer leur femme. Mais je vais commencer au mari et je ne vais pas parler de la femme. Je vous rappelle quand même qu'elle doit être soumise à son mari. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole et qui l'explique. Mais le verset 25 concerne les maris. Mais ce n'est même pas mon sujet, ce qui va me concerner, c'est à peine plus loin. Enfin, qui me concerne aujourd'hui, à peine plus loin. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Hein, on retrouve mon thème, l'eau. Bon, en fait, on s'aperçoit que la traduction, c'est moi j'ai 1910. Ah, c'est bien, je n'ai même pas vu que c'est marqué. 1910, c'est marqué par le baptême d'eau. Voilà, donc c'est 1910. Et puis en fait, on prend une révision second Genève, juste après, la 79, elle nous dit « afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole ». Donc on ne parle plus de baptême, il n'y a pas de confusion en fait. Il ne parle pas du baptême d'eau spécifiquement, mais il parle que cette eau est elle-même un baptême. C'est l'eau de la parole qui devient baptême. C'est de l'eau, tu es plongé dans l'eau de la parole et elle te purifie. Après, si je prends la traduction Sommer, j'ai vu aussi une note intéressante, c'est qu'il va même un peu plus loin. Il nous dit que ce baptême d'eau, en fait, c'est traduit par bain nuptial. Baptême d'eau. Ce n'était pas le baptême d'eau de Jean, le baptême qu'on connaît, mais c'était un bain nuptial pour préparer l'épouse. Avant le mariage, l'épouse se préparait, elle mettait avant de mettre ses plus beaux atours, vêtements, pour être présentée au mari. En fait, elle était baignée dans un bain parfumé, etc., pour la présenter à l'époux. En fait, c'est ce sens-là. Cette parole de Dieu annoncée, toute cette parole-là, celle qu'on entend par la prédication, celle qu'on lit, celle qu'on reçoit directement de Dieu, eh bien, elle est là pour nous purifier, nous préparer à être l'épouse. Parce qu'il nous dit bien qu'elle était purifiée par cette eau afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On voit bien que cette eau a changé complètement ces personnes qui font l'Église, le corps de Christ. Et petit à petit, elle est purifiée, sanctifiée et présentable à Jésus, aux noces. Amen. Donc la parole de Dieu, évidemment, vous le savez tous, est essentielle pour notre vie spirituelle. Absolument essentielle. Il n'y a pas que la parole de Dieu, il y a bien d'autres choses qui sont nécessaires à la vie chrétienne, mais la parole est vraiment une base essentielle. Parce qu'elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous lave, et nous renouvelle aussi l'intelligence, parce que notre intelligence naturelle est plutôt contraire à celle, elle est contraire à Dieu, elle est plutôt ennemie de Dieu. C'est pour ça que notre intelligence a besoin d'être renouvelée, sanctifiée, purifiée, ainsi que nos actions. Je vais un petit peu plus loin, on va prendre 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va prendre le premier verset. 1 à 4, 4 compris. Je peux le lire ? Alors, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et le verset 4, que j'ai particulièrement souligné, est qu'ils ont bu, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. On se rappelle ce qui s'est passé. En fait, là, il nous parle de... Il parle du peuple qui était sorti d'Égypte, qui était dans le désert. Et Paul nous affirme que ce rocher qui les suivait, on voit l'histoire du rocher dans ces passages des Nombres et de l'Exode, ce rocher, c'était le Christ. Ce rocher, ça nous paraît peut-être bizarre, mais ce rocher est affirmé que c'était le Christ qui les suivait dans le désert. Et ça nous rappelle donc un passage avec la note qui nous dit Nombre 20. On peut aller à Nombre 20, juste pour voir un petit peu de quoi Paul nous parlait, un peu plus précisément. Alors, Nombre, chapitre 20, au verset 2. Donc, ils sont dans le désert, ce peuple. Et il n'y avait point d'eau, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, il n'y avait point d'eau pour l'église. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Ça, c'est la parole du peuple qui murmure, qui se plaint, qui a soif dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Donc Moïse et Aaron, verset 6, s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la rentrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Vous parlerez en leur présence au rocher. On a vu que ce rocher, c'était le Christ qui les suivait. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux et tu feras sortir d'eux pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Première chose. Au verset 9, Moïse prit la verge, donc là il obéit à Dieu, qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Tout ce passage, c'était les eaux de Meriba, qui veut dire l'eau, l'endroit de la querelle. En fait, on voit une chose très importante, c'est que le peuple de Dieu était vraiment en train de murmurer, comme chacun pourrait murmurer dans sa vie. Ça, c'est ni plus ni moins, parce qu'il a soif. Il dit, mais pourquoi on est là? Il n'y a pas d'eau. Pourquoi vous nous avez emmenés ici? On crève de soif, de chaud, même notre bétail va mourir. Combien de fois on a pu dire ce genre de choses dans vos vies? Enfin, moi, je l'ai déjà dit. Hein. Ça, rien ne va. Quand rien ne va, ben, rien ne va. Et puis, on le dit, on le proclame et on se plaint. Et là, ils se plaignent carrément devant Moïse et Aaron, qui sont les représentants de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils se plaignent devant Dieu. Ils murmurent. C'est ce qu'on appelle les murmures. Murmurer devant Dieu. C'est ce que nous pratiquons, hélas, souvent. Enfin, moi, le premier. Mais tout en se rappelant que, ben voilà, qu'on murmure, on ne murmure pas devant rien, mais on murmure devant Dieu. Lui nous entend, lui sait exactement où on en est, il connaît exactement les circonstances de nos vies, il a un plan pour nous de bénédiction, j'ai que des projets de bonheur et non de malheur pour vous, et nous nous sommes en train de dire, ben cette situation, elle ne va pas, elle ne va pas du tout, elle est invivable, ce n'est pas normal. En gros, Dieu, ben, tu ne fais pas grand-chose pour moi, quoi. Ou tu fais même un peu n'importe quoi. Donc, Cette parole que nous prononçons, cette parole qui est toujours puissante, eh bien, elle freine l'action de Dieu. Elle freine l'action de Dieu parce que l'action de Dieu est bénissante sur nos vies et tout d'un coup, elle est freinée puisque nous nous bouchons les oreilles et nous sommes plus à l'écoute de Dieu, mais nous sommes à l'écoute de notre propre insatisfaction. C'est ce que nous enseigne la parole. Parce que Paul dit, ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Et cette parole-là, l'Ancien Testament, vous a servi d'exemple afin que ben, vous rectifiez vos vies. Alors, on va essayer de ne pas murmurer. J'ai essayé, j'arrive pas. J'arrive pas bien. Mais Dieu me reprend, c'est déjà pas mal. Au moins, je sais que Dieu, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est déjà un premier pas. Il y a une parole de Dieu qui nous dit, mais rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu pour vous, c'est rendez grâce pour toutes choses en Jésus-Christ. Toutes choses, ce n'est pas seulement les bonnes. Moi, je rends volontiers grâce quand les choses sont belles dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Oh, je vois ta main, c'est vraiment superbe. Merci Jésus, vraiment, merci Seigneur. Mais quand ça ne va pas, j'oublie de dire merci Seigneur. Parce que s'il nous dit en toutes choses, c'est en toutes choses. Alors, s'il y a quelque chose qui est dur dans ma vie, s'il y a une épreuve devant moi, le Seigneur, il m'attend au tournant, il me dit, Stéphane, j'aimerais une chose, c'est que tu me fasses confiance et que tu me dises merci, même sous cette circonstance adverse. Et je crois que c'est toute une éducation pour chacun d'entre nous. C'est comprendre que Dieu, mais il est aussi là dans les épreuves. Et l'épreuve, elle est voulue, elle est permise pour nous donner une bénédiction plus riche derrière. Pas seulement pour nous éduquer, mais aussi pour nous amener une bénédiction plus riche derrière. C'est difficile. La vie chrétienne, elle est vraiment difficile. Mais elle est bonne. Elle nous fait grandir. Donc, pour reprendre, en fait, l'ordre de Dieu à Moïse et à Aaron, c'est vous allez convoquer l'assemblée, on va aller dans le rocher, qui représente le Christ, et vous parlerez. Dieu n'a pas dit vous allez frapper, mais vous parlerez au rocher, il va donner de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse, il a perdu patience, il en avait un petit peu à la casquette là, de ce peuple qui râlait tout le temps, qui ne comprenait pas que Dieu était toujours à l'œuvre et présent. Et en fait, ce qu'il a fait, il a dit, mais vous êtes une assemblée de rebelles. Il s'est fâché contre le peuple, ce que n'avait pas encore fait Dieu. Il s'est fâché contre le peuple, et au lieu de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau, eh bien, il a pris son bâton et il a tapé sur le rocher, ce qui n'est pas exactement la même chose quand même. Il n'a pas parlé au rocher, il a tapé sur le rocher, il n'a pas béni le peuple, il les a traités de rebelles. Donc il a fait au moins une double faute. Et on voit que tout de suite Dieu dit, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu ne rentreras pas dans le pays. C'est une parole un peu dure. Hein? La sanction de Dieu est tombée sur sa vie pour cette erreur-là. Mais en tout cas, moi, ça parle sur une chose, c'est que, voilà, quand on est dans un état difficile, où on a soif, où on est mécontent, Dieu nous invite à parler au rocher. Parce que Dieu lui a dit, mais vous allez vers le rocher, qui est le Christ, et vous parlez au rocher. Et rien que de parler au rocher, de proclamer son nom et de parler à lui, vous allez commencer à boire de l'eau. Amen. Et après, il est évident que le deuxième passage, quand Moïse a tapé sur le rocher, Moïse ne savait pas ce qu'il faisait, il était en colère. Mais on voit bien que ça nous préfigure vraiment la croix du Christ. Ce Jésus qui veut nous bénir, mais il a été frappé deux fois et il est mort sur la croix pour nous. De là qu'il dit « j'ai soif » et de là coulent les eaux abondantes, c'est de la croix. Amen. Vous savez, ces eaux abondantes, elles viennent de la croix. J'ai vécu une expérience une fois dans une convention, où c'était une convention école prophétique, et c'était très bénissant, c'était vraiment bien, c'était beaucoup baigné dans la louange, le principe c'est d'être baigné dans la louange très fortement, et puis laisser l'Esprit de Dieu agir sur nos vies. Alors il se passe des tas de phénomènes, même les gens réagissent, des fois ils tombent par terre, ils roulent par terre, il y a des exclamations, il y a des cris, ou des fois la personne voit les anges, enfin bon, peu importe. Il se passe des choses très très fortes. Et puis l'après-midi, il y avait des ateliers qui étaient un petit peu différents, pour contre-garer un peu. Et il y a un atelier qui c'était simplement ça. Ben, il nous avait mis une croix. C'était une femme qui nous avait posé une croix comme ça, en bois. Et puis il nous dit, bon, ben, vous vous installez là. Puis ceux qui veulent, eh ben, ils vont se mettre à genoux devant la croix, puis ils vont attendre en silence. Donc c'est exactement un petit peu le contraire de la façon de faire, quoi. Il y a la façon de faire très... avec beaucoup d'extravertis, beaucoup d'effusions, on reçoit, on peut être ivre de l'esprit, etc. Et puis là, c'est passé pour moi une chose très très forte. C'est que venir au pied de la croix, déjà, je n'avais pas envie de voir un bout de bois comme ça, je ne suis pas tellement mon style, mais je suis venu devant le bout de bois, et en silence, et puis c'est vrai que là, il y a eu des eaux abondantes qui sont venues sur ma vie, quoi. Et là, j'ai commencé vraiment à ressentir vraiment la présence de Dieu, mais beaucoup plus forte que dans l'onction du Saint-Esprit. Enfin, c'était pour moi, hein, je ne dis pas que ça n'a rien passé dans les autres choses. Mais c'était vraiment une leçon pour moi. C'est une leçon parce que je sais que c'est là où je reçois le plus. C'est vraiment quand je me remets devant la croix, en silence. Et je médite sur cette croix, et je vais recevoir de l'eau. Et je vais recevoir ce qu'il a à me dire. Amen. Et Sylvain, il nous l'a... Je ne sais pas si la semaine dernière ou il y a 15 jours, tu nous as invités à venir aussi près de la croix. Et c'est un des meilleurs exercices spirituels que je connaisse. Enfin, je parle pour ma part. Et là, il y a des eaux abondantes. Je vais juste conclure. Si je trouve ce que je voulais dire. Ouais. Donc pour conclure, je reviens à cette parole qui est de l'eau, Jésus qui est de l'eau, cette parole qui est de l'eau. Et il y a un verset qui nous dit dans Jean 15, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le groupe de disciples autour de Jésus, à force d'écouter ces paroles, ben ces paroles même les purifiaient. On se rappelle que Jésus leur a lavé les pieds, hein, et puis Pierre, il a dit « Oh ben lave-moi tout entier ». Et puis Jésus, il a dit « Non, tu n'as pas besoin d'être béni tout entier, tu n'as besoin que de te laver les pieds, je te laverai juste les pieds, parce que déjà vous êtes bénis dans ma parole. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce. Est-ce que vous pouvez proclamer sur votre vie que vous êtes purs ? Je suis pur, puisque la parole de Dieu est sur moi. La parole de Dieu est en moi, puisque la parole de Dieu, je l'écoute, je la lis, je l'entends, je la pratique, et elle me purifie. Et Dieu déclare que je suis pur. Il faut s'accrocher à ça, parce que c'est la réalité spirituelle. Et après, cette purification, elle progresse jusqu'à ce que nous soyons avec lui. Je pensais aussi à un verre d'eau, ça c'est un verre de vin, mais si je prends un verre d'eau... Jésus l'a dit qu'on a besoin que de se laver les pieds. Alors, imaginons que nous soyons un verre d'eau. Un verre d'eau comme ça, bien clair, bien pur, bien clair, de l'eau bien, bien limpide. Puis dedans, il y a un tout petit dépôt. Tout petit dépôt. Ce dépôt représenterait peut-être ce que Jésus veut nous laver les pieds, juste la base, les pieds. Donc nous sommes, en tant que chrétiens, des vases d'eau pure, avec un petit peu de dépôt au fond. Et puis ce qui se passe justement quand on est dans les épreuves, enfin je pense à ça, je ne sais pas si c'est très juste, mais quand on est dans les épreuves, dans l'épreuve de la vie, quand Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous faire aller plus loin, ben on peut dire que le verre d'eau, il s'agite. On s'agite dans les épreuves, dans nos pensées, on s'agite même dans nos mouvements, on va un peu à droite à gauche, on essaie de résoudre des problèmes, nos pensées, surtout notre cœur est agité, on n'est plus tellement dans l'écoute de Dieu. Et ça commence à faire comme ça, quoi. Et donc le petit dépôt au fond de nous, eh ben, l'eau devient toute trouble. C'est là que l'eau n'est plus claire, elle devient trouble. Et pourtant, nous sommes bien un verre d'eau. Mais ce petit dépôt fait en nous, ce petit dépôt humain, ce petit dépôt qui fait qu'il reste, parce que nous marchons dans le monde, eh ben, ça produit du trouble, partout du trouble. Et c'est pour ça qu'il est aussi, en revenant à la croix, ben, la paix descend, l'eau coule, et ça y est, le dépôt il redescend au fond, et nous redevenons un verre d'eau pur et limpide. Amen. Moi, je vous exhorte, si vous partez en vacances, vous prenez du congé, à ne pas oublier votre parole. Il ne faut pas en manger trop à la fois, à mon avis. Il faut, en prendre peu, mais bien, bien être près de Jésus, là, tout près, dans les mots, tout près, pour vraiment que ça fasse son effet en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.